Alors, nos effectifs sont réduits, mais ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous. Bonjour à tous. Et puis, on se réjouit que beaucoup de nos absents sont ensemble avec d'autres frères et sœurs à Lévis. Puis, il y a de très, très belles choses qui se passent là-bas. Et j'ai vu par l'esprit d'encouragement avec lequel Cheryl est revenue hier soir, que c'est vraiment un congrès qui va porter des fruits. Et moi, je vous adresse la parole aujourd'hui. Je vais partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et j'ai été un peu maladroit. J'ai choisi un texte difficile. Et donc, au lieu de vous l'expliquer, on va essayer de le comprendre ensemble. J'ai quand même préparé des choses pour vous. Mais vous allez voir que c'est un texte très intriguant. Je peux vous dire que ce texte qui vient de l'Évangile de Luc, il nous parle d'une vérité importante. Et c'est Jésus qui parle dans ce texte. Une vérité importante du royaume de Dieu. On va ouvrir un peu plus tard, en fait. Écoutez-moi avant. Ceux qui ont leur Bible, oui. Merci de l'avoir apporté. Une vérité importante du royaume de Dieu qui est celle-ci. C'est vrai que il faut pas tomber dans le danger de l'amour de l'argent dans le royaume de Dieu. Ça, Jésus nous le dit à plusieurs reprises. Il faut être libre par rapport à l'argent qui peut facilement devenir un dieu pour nous. Un sauveur, quelqu'un, c'est pas vraiment une personne, mais on le prend presque comme une personne. Quand on a la mauvaise attitude et on s'accapare l'argent parce qu'on pense que c'est ça qui va nous sauver. Alors, oui, Jésus nous dit, il faut se libérer de cette idolâtrie-là. Par contre, il faut pas fuir l'argent. Et il y a une deuxième étape qui est de dire, faut apprendre à utiliser l'argent pour le bien du royaume de Dieu. Parce que c'est utile. C'est utile. Et il y a une parabole qui nous parle de ça. Mais moi, avant de vous lire la parabole, moi, je voudrais vous raconter une histoire. Ça. Ça se passe à Montréal. Et puis, c'est une famille riche qui habite à Westmount. Je pense que tout le monde sait c'est où Westmount. C'est un des quartiers les plus riches du Canada. Et puis, donc, il y a un père de famille qui est très riche. Et puis, il a rencontré une personne nouvellement arrivée au Canada, qui est quelqu'un qui cherchait à établir sa vie ici par tous les moyens qu'il pouvait. Et puis, l'homme riche a eu compassion de lui, il l'a embauché comme chauffeur, parce que lui, il aime pas conduire. Fait qu'il a embauché un chauffeur, et puis il le conduisait partout, cette personne, et aussi faisait des courses pour le boss, on va l'appeler le boss. Et puis, ce que le boss a décidé, je vais donner à mon chauffeur, mon employé, un fonds de roulement de 1 000 $, OK? Un fonds de roulement, ben c'est que tu donnes 1 000 $ à la personne, il peut le mettre dans son compte en banque personnel, puis là, les dépenses qu'il fait pour le boss, il redonne les reçus, puis le boss, il donne le montant des reçus, fait que l'employé a toujours 1 000 $, puis il peut faire des dépenses pour le boss. Alors, tout allait bien, sauf que le boss, il s'est rendu compte qu'il y a malheureusement, l'employé, il utilisait les autos pour ses fins personnelles. Puis ça, c'était interdit. Alors ça, c'est bien de valeur. Fait que là, un lundi matin, il l'appelle, puis il dit, écoute, malheureusement, c'est ta dernière semaine, parce que j'ai appris des choses. Alors, tu as une dernière semaine, je te donne des courses à faire, et dont quelques-unes à Ottawa. Ottawa. Et après ça, on règle nos comptes, on ferme le compte de roulement, puis c'est fini après. Dommage. Là, le vendredi, le gars, il revient, il lui donne les reçus, et le reste du compte, là. Mais dans un des reçus, c'était comme écrit à la main du gars, puis c'était marqué « dépenses de transition ». Mais c'était pas un vrai reçu, là, tu sais. 248 $ dans le 1000 piastres, 248 $. Est-ce que tout le monde me suit? OK. Mais le boss, qui est quand même un homme bon, généreux, et il dit, c'est un pauvre diable. Tu sais, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais passer l'éponge là-dessus. Il a fermé les yeux. Mais là, un mois plus tard, le boss, l'ex-boss maintenant, il rencontre un client à Ottawa. Un homme d'affaires débutant, un jeune, qui achetait les produits du boss de Montréal, parce que le boss de Montréal, il y avait des produits. Et puis, depuis un mois environ, ce jeune client d'Ottawa était devenu un client de plus en plus fidèle. Puis, le boss de Montréal découvre dans la conversation que son ancien chauffeur travaille pour ce gars-là à Ottawa maintenant, comme jardinier. Et alors, l'ex-boss, le gars de Westmount, il dit rien, il décide de rien dire. Puis, ce gars d'Ottawa, il dit dans la conversation, puis en passant, un gros merci pour la bouteille de cognac que tu nous as fait parvenir pour nous remercier de notre business. J'ai vraiment apprécié. Puis c'est vraiment du cognac de bonne qualité. Et le gars de Westmount, il a fait des recherches, puis ce genre de cognac-là, ça coûtait 248 $ par bouteille. Fait que ma question, comment pensez-vous que le boss, il va réagir à cette situation? Qu'est-ce qu'il va penser? Si vous étiez lui, qu'est-ce que vous feriez? Un wise guy? Un filou? Ça a fidélisé le client, apparemment. Oui. Oui, ça a donné un avantage au boss.
Le chauffeur n'a pas dit que ça venait de lui. Il a quand même dit que ça venait du boss.
Apparemment, il a dit que ça venait du boss. Ouais.
Comme si ça achetait une place comme jardinier.
Il voulait se racheter? Oui. Fait que toi, si tu étais le boss de... Le premier boss, tu diras, il a fait quoi pour essayer de se racheter? Mais est-ce que tu essaierais d'y causer du trouble? Non. OK. OK? Très bien. Oui, Pierre? J'ai pris une initiative, mais c'était quand même risqué dans le sens... Oui. Mm-hmm. Oui, il y a un mix de bonnes et mauvaises choses. OK, une dernière... peut-être deux dernières remarques, et puis... Après, parce qu'il faut vraiment écouter Jésus, là. Oui. Pour toi, c'est pas correct. Oui. Oui. Oui, exact. Mais la question aussi, c'est Qu'est-ce que vous pensez que le boss va faire? Oui. Absolument, absolument. Bon, alors écoutez, cette parabole que je viens de vous raconter, ça vient pas de la parole de Dieu. C'est moi qui l'ai inventée, OK? Par contre, c'était juste une entrée en matière pour une vraie parole qui vient du Seigneur et qui est dans Luc chapitre 16. Qu'on va essayer de l'étudier ensemble. C'est Luc chapitre 16 et les versets 1 à 9. Et puis peut-être deux trois mots que cette parabole là dans le ministère de Jésus, elle a lieu donc en sandwich entre d'autres paraboles, parce que juste avant qu'il raconte l'histoire que je vais vous lire, il y a les trois paraboles de Luc chapitre 15 où Jésus remarque que les pharisiens sont pas contents qu'il y a des prostituées et des collecteurs d'impôts et des gens croches qui s'approchent de Jésus. Et Jésus leur raconte trois paraboles de suite. La brebis perdue, l'argent perdu, puis le fils prodigue, pour leur montrer comment Dieu y aime les perdus. Et après ça, il leur raconte la parabole qu'on va lire, qui est celle du gérant croche, qu'on appelle aussi l'intendant infidèle. Et après cette parabole du gérant croche, Jésus il rentre dans un autre thème qui est « faut pas être attaché à l'argent ». Et il raconte une autre parabole après, celle de l'homme riche et du pauvre Lazare, que plusieurs connaissent déjà peut-être, et qui est une parabole qui dit que si tu es un riche qui est très attaché à l'argent et que tu ne partages pas avec les pauvres, ça peut avoir des conséquences éternelles désastreuses. Mais en sandwich, il y a la parabole qu'on va lire tout de suite. Ben, je vais vous la lire et puis on va continuer à en discuter après. Jésus dit aussi aux disciples, ça c'est 16, verset 1. Il y avait un homme riche qui avait un intendant. Un intendant, c'est un gérant de son domaine agricole. Et celui-ci fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens? Est-ce que je vais piocher la terre? J'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. » Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Les débiteurs, c'est ceux qui devaient des choses au maître. Le maître, il est riche, il produit beaucoup de produits agricoles et aux plus pauvres, il les donne et ils doivent rembourser plus tard quand ils ont de l'argent. Il les fait tous appeler. Et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » 100 mesures d'huile, répondit le premier. Et il lui dit, « Prends ton billet, ça c'est la note où est-ce que tu as marqué ta dette, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. » Et il répondit, « Ben, prends ton billet et écris vite 80. » Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et là, c'est Jésus qui reprend la parole. Là, on n'est plus dans la parabole, mais il donne comme une explication. Et moi, je vous dis, aux disciples, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles vous feront défaut, quand les richesses injustes vous feront défaut. » On va arrêter la lecture là. OK. Alors, qui se sent un peu mystifié par cette parabole? C'est pas facile, hein? Et c'est ambigu, c'est un peu troublant même. Mais on va essayer de s'entraider à l'interprétation parce que moi, j'ai lu ça en début de semaine dans une de mes lectures personnelles et moi, ça m'a inspiré des idées, puis là, j'ai dit, ah, ça serait bon d'en parler dimanche. Là, j'ai commencé à faire de la recherche, puis j'ai remarqué que les grands commentateurs bibliques, les plus spécialistes et tout, sont comme tous en désaccord sur ce que ça veut dire. Et je crois que c'est une parole que peut-être Jésus a voulu qu'elle ait plus qu'une application. Il touche peut-être à plus qu'un sujet. Et quand Luc, parce que c'est pas Jésus qui a écrit l'évangile de Luc, c'est Luc. Luc, il connaissait la parabole. Et Luc, quand il a inséré la parabole dans son récit de la vie de Jésus, peut-être que Luc a compris une ou deux choses et les a rattaché la parabole à un ou deux autres thèmes qui sont importants à Jésus, mais peut-être qu'il y en a d'autres insérés dans la parabole. Et donc, moi, je me suis senti un peu dépourvu, mais par contre, je pense qu'ensemble, on peut arriver à quelque chose. Je voulais vous dire aussi qu'un détail que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches, c'est que il paraît que les intendants, les gérants des grands domaines agricoles dans la Palestine de ce temps-là, bien que c'était une job importante, ça se pouvait qu'ils n'étaient pas vraiment payés beaucoup. Ça dépendait du genre de propriétaire. Et les spécialistes, les historiens disent qu'il y avait des cas où le propriétaire dit, je te paye pas beaucoup, par contre, et tu peux comme charger de l'intérêt sur les prêts que tu fais avec mes biens à moi, et puis en garder pour toi-même, un peu comme des genres de commissions que tu donnes à toi-même. Alors, paraît-il que ça existait? Jésus le dit pas si c'était un cas comme ça ou pas. Dans la parabole, j'aurais aimé ça qu'il spécifie, mais c'est possible que quand le gérant il dit, ben au lieu de dire que au lieu qu'on dise que tu dois 100 mesures de blé, ben on va changer ça à 80, c'est possible qu'il ramenait ça à la vraie dette. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, mais c'est une spéculation. Jésus, il spécifie pas.
Est-ce que ça pourrait aussi que ramène ça à 80, c'est sous-entendu que tu me donnes le 20, tu vois 80?
Lui, sa stratégie, c'est qu'il se dit, quand le boss me met dehors, je vais aller cogner à la porte des gens que j'ai comme, je leur ai donné un bon deal à la fin où j'ai, et il y a l'aspect aussi un peu comme l'autre parabole que vous avez entendu aujourd'hui qui vient pas de la parole de Dieu, mais que il a fait voir le propriétaire comme un homme généreux. Et ça, c'était très important dans cette culture-là qu'un homme important, un homme riche, cherchait aussi à être vu comme un bienfaiteur social, quelqu'un qui était généreux, comme aujourd'hui d'ailleurs, les bienfaiteurs aiment bien que les gens riches aiment bien que leur nom soit écrit sur, mettons, un pavillon à l'université qu'ils ont aidé à faire construire. Des fois, le pavillon, il s'appelle par leur nom à eux. Donc, j'imagine que... Donc, ça, c'est, je pense, le propriétaire qui réagit pour... Ce qui semble réagir positivement, c'est possible aussi qu'il se dit, mais il a aidé ma réputation parce que c'est comme si ça venait de moi, la diminution des dettes. Ma question à vous, est-ce qu'il y a des détails dans l'histoire qui vous frappe ou que vous trouvez important dans l'histoire? Là, c'est pas encore votre interprétation que je vous demande, mais des choses qui sont dans l'histoire, qu'on vient de dire, que vous trouvez important. Est-ce que vous aimeriez qu'on la relise? On va la relire, puis la question c'est, est-ce qu'il y a des détails que dans l'histoire que vous trouvez important, puis de nous les dire? Alors, Jésus dit aussi aux disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens. Piocher la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, Jésus, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Oui. Et t'es pas le seul. Oui, on a le droit de dire ça. C'est vraiment c'est considéré une des paraboles les plus difficiles de tous les évangiles. Oui, Pierre. Oui. Oui. Il y a quelque chose là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres détails que vous remarquez? Oui, Daniel. Oui.
que comme tu dis, t'as bien fait. Pourquoi est-ce qu'au verset 6, il dit que il dit à la personne de comme s'asseoir rapidement et de l'écrire, comme s'il fallait qu'il fasse à la presse pour pas se faire pogner, genre.
Oui.
Si lui enlève le pourcentage que lui il prend, dans le fond, il s'en foutrait même si son boss il voyait, parce que c'est comme son boss serait qu'il tente d'enlever le pourcentage que lui prend.
C'est ça, oui. C'est pour ça que j'hésite de. Mais il y en a qui sont tellement. Je veux dire, il y a des commentateurs très connus qui sont tellement mal pris devant cette parabole qu'ils disent, ben ça doit être ça. Mais au fond, c'est peut-être pas ça. La manière que c'est dit en grec, c'est faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. Mammon, Jésus utilise ce mot-là pour parler de l'argent. Alors, c'est possible que on parle de l'argent de manière générale. Et ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Oui, Jésus nous appelle à renoncer à l'argent comme notre Dieu, qui est quand même le Dieu de beaucoup de monde et peut-être notre ex-Dieu, peut-être plusieurs d'entre nous, peut-être tous, on a lutté avec cette emprise que ben ma vie c'est basé sur l'argent. Et là on vit dans le royaume de Dieu, on vit dans une autre réalité qui est mon Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est pas l'argent. Puis maintenant, est-ce qu'il faut fuir l'argent? Jésus est peut-être en train de nous dire, utilisez votre argent de manière créative pour le royaume de Dieu. Peut-être ça rejoint un peu ce que Pierre il dit, utilisez votre argent pour le salut des autres. Est-ce que c'est pas un peu peut-être dans cette direction-là? Et n'ayez pas peur de l'argent. Utilisez-le comme votre outil, mais pas pour l'accaparer pour vous, mais pour le royaume. Oui? Oui. Oui, alors, et tu fais bien parce que. Oui. Oui. Alors, écoute, moi, j'aimerais que tu lises 10 à 13, parce que ça je gardais cette... Non. En fait, c'est ça, je vous ai caché quelque chose. Je vous ai caché quelque chose, c'est que il y a, après la parabole, je vous ai lu le début de l'explication de Jésus, mais il y en a plus. Il y en a plus, et puis pourquoi j'ai pas lu? Parce que les explications, c'est comme compliqué. Mais par contre, on va les lire. Il y a plusieurs sujets, et puis justement, écoutez bien ce que Bill va lire, et puis peut-être qu'il y a une lumière qui va sortir des autres explications. Que Jésus et puis que le narrateur Luc donne.
OK. Donc,
10 ou 9 jusqu'à 13.
Comment tu fais avec 9?
Ouais.
J'ai une autre version moderne, OK? Jésus ajouta, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoit dans les demeures éternelles. Verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait-vous confier les vraies richesses? » Verset 12, « Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? » Verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. ou bien il haïrait le premier et aimerait le second, ou bien il s'achètera au premier et mépriserait le second. Excuse quoi?
Ça s'attachera
au premier et mépriserait le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Est-ce que ça vous aide? Ah bon, ok, ça me rassure. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Mais oubliez, par contre, n'oubliez pas la parabole. Il faut tout ça, c'est pour aussi expliquer la parabole. Alors, est-ce que quelqu'un a eu une lumière? Alors, on va commencer avec Cheryl puis Mimi peut-être après. Oui. Démissionner ou congédier? Congédier. Ok, oui. Ok, donc lui, tu veux dire, il a été efficace dans les petites choses. Alors, est-ce que tu penses que la parabole nous dit « soyez pas comme lui » ? Ok, c'est juste que là, c'est juste bizarre le verset qui dit « le maître l'a loué ». Qu'il a fait quelque chose de... Oui. Oui. OK, d'accord. Je crois que c'est quand même important, ça c'est quand on lit les paraboles, que des fois, Jésus il va prendre un exemple mauvais pour nous apprendre quelque chose de bon. L'exemple, c'est... le meilleur exemple, c'est il avait raconté une histoire à propos de la prière une fois. Puis il a dit, il y avait un juge vraiment méchant et corrompu. Et puis, il y avait une veuve qui avait une cause. Et puis, comme le juge était mauvais et corrompu, il dit, je vais pas faire justice à cette veuve qui peut pas me faire de mal. Mais elle l'a tellement écœuré que finalement, il l'a aidé. Puis, là, on peut se demander, oui, mais pourquoi Jésus donne un exemple, quelqu'un de croche, quelqu'un de méchant? Mais l'idée, c'est si un être humain aussi pourri finit par... comme répondre à la prière d'une pauvre veuve, à plus forte raison, un Dieu qui aime, qui est tellement bon, votre Dieu va répondre à vos prières. C'est un peu, voyez-vous, on donne un exemple, si un mauvais est capable de répondre aux prières, il faut vraiment que vous croyez que Dieu qui est bon va répondre à vos prières. Puis, je pense que cette parabole du gérant croche, elle va dans le même sens, qu'il faut pas qu'on prenne toute la vie de ce gars-là comme notre exemple. C'est pas ça que Jésus veut faire, mais il y a juste un aspect que cette personne a qu'il faut prendre en exemple. Puis c'est ça qu'on essaye de déterminer ce matin. Il y avait Mimi qui voulait dire quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et Jésus ne nous demande pas d'être malhonnête. Il nous demande d'utiliser l'argent et les autres biens terrestres qu'on a d'une manière intelligente. De pas faire l'erreur de dire, bon ben, il faut que je me détache de ces choses, donc je les fuis, je m'en occupe pas. Non, on peut les utiliser pour le royaume. Et moi, je trouve intéressant, je pense qu'on, oui, on va arrêter bientôt, mais moi, je trouve intéressant que, après toute cette section-là, il y a l'explication que Bill a lue. Après ça, il y a comme un petit échange entre Jésus et les pharisiens, sur la question de l'amour de l'argent. Et Jésus leur dit, mais en fait, même la Torah, la loi que vous passez toute votre vie à essayer d'obéir, est aussi contre l'amour de l'argent. Et il leur raconte une autre parabole, c'est la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et l'homme riche, il se retrouve en enfer dans cette parabole-là, parce qu'il a vécu sa vie juste pour lui-même. Et il y avait le pauvre Lazare qui n'aidait pas, qui était à côté de lui et qui n'aidait pas. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux paraboles? Est-ce que cet homme riche, justement, n'aurait pas dû utiliser ses richesses pour le royaume de Dieu plutôt que juste pour lui-même? Est-ce que s'il avait déjà aidé Lazare avec ses biens, est-ce que ça n'aurait pas été un pas vers le royaume de Dieu? L'évangile que nous prêchons, le fait que Jésus il est venu pour nous sauver, il est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Cet évangile-là, et que nous partageons autour de nous, faut aussi qu'on le vive. Il faut que ça nous mène dans une transformation de notre manière de vivre ici-bas, dans le monde, dans les affaires, dans nos relations avec les gens. Et je pense que ces enseignements-là, ça touche à ça. Ça touche à la question de notre générosité. Moi, c'est ce que je comprends de cette parabole et je crois qu'on peut arrêter là-dessus. Alors, si vous êtes encore très confus, je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, c'est une parabole dont on ne parle pas souvent dans les églises parce que c'est quand même assez difficile. Mais je pense qu'elle est là vraiment pour nous faire réfléchir à la manière qu'on vit notre vie. Prions. Jésus, tu nous as épatés et tu continues de nous bouleverser. Toi, tu es Dieu et tu t'es fait homme, puis tu as marché parmi nous. Tu nous as raconté des histoires et tu as voulu nous révéler des choses que toi, tu comprends très, très, très bien, puis que nous, on est juste en train d'apprendre à comprendre. On sait ici que tu nous parles de nos biens, de l'argent que tu nous confies, puis du royaume que tu es en train de bâtir, puis que dans lequel nous, on doit participer en tant que tes enfants, tes disciples. On ne comprend pas tout, mais on sait que tu nous demandes d'être détachés de l'argent, mais aussi de l'utiliser d'une manière intelligente et fidèle. Plus pour te faire des amis à toi, Seigneur, que de nous enrichir nous-mêmes. Donne-nous cette capacité, puis donne-nous de faire confiance que toi, tu es plein de générosité, puis que tu es bon, puis que si on prend un risque qui peut-être ça marche pas bien, bien que tu es vraiment là pour nous pardonner. Mais donne-nous d'essayer, Seigneur. Nous te remercions pour cette parabole. Au nom de Christ, nous prions le Père. Amen.